ressuscité. À toi la victoire.
Chers amis, bonjour. Au micro ce matin, Henri Van Ardoy qui vous souhaite la bienvenue au nom de l'Église protestante paroisse de Bligny, ainsi qu'aux auditeurs connus et inconnus du net. Nous allons vivre un moment de culte et de réflexion qui ne remplacera bien sûr jamais la communion fraternelle ni le plaisir de se retrouver tous ensemble dans un moment de louange et de partage autour de la table du Seigneur. Que chacun de vous en particulier soit béni richement des paroles réconfortantes de notre Seigneur Jésus qui a réservé pour chacun de nous. Remettons par la prière ce moment privilégié dans les mains de notre Seigneur. Seigneur, merci d'être présent parmi nous. Nous voulons être sensibles par ton Esprit Saint à ta parole que tu nous prodigues dimanche après dimanche. Que ce confinement soit un bénéfice spirituel. Nous voulons avoir une pensée pour tous ceux qui sont seuls, malades ou découragés. Nous te prions de leur apporter une bénédiction spéciale. Que ta grâce repose sur Jean-Luc qui apportera un message, ainsi que tous les chrétiens qui ont foi en toi, ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Merci de nous avoir procuré les moyens techniques pour parvenir à partager ta parole malgré ce confinement. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de poursuivre ce culte, écoutons un extrait, un court extrait de la cantate BWV 80 de Johann Sebastian Bach. Le texte de ce dernier se réfère à Luc, chapitre 11, versets 14 à 28, qui traite de l'expulsion d'un démon par Jésus et son exhortation à suivre les préceptes du Maître. Cette cantate d'actualité interprétée par la Chapelle Royale et la Collegium Vocale sous la direction de Philippe Herweck, est en rapport direct avec le thème « Und wenn die Welt wohl Teufel wäre » et « Si le monde était plein de démons ?» point d'interrogation, sur un hymne luthérien. Je vous en prendrai rien, chers amis, en vous disant que nous sommes depuis quelques semaines confinés chacun chez soi. C'est-à-dire que nous touchons les limites de notre espace privé et nous nous forçons à y rester. En un mot, nous sommes enfermés, confinés, emprisonnés. Vous en conviendrez, cette situation n'est naturelle pour personne. Elle est contraire à la bienséance, ainsi qu'à toute logique humaine et sociale. Nous sommes donc prisonniers dans notre propre maison, n'étant pas coupable, sinon victime d'un virus pervers et destructeur. Nous sommes tous aujourd'hui prisonniers d'un bracelet électronique à notre cheville appelé Covid-19. Avec quelques faveurs de déplacement limitées, il est vrai, que je vous encourage surtout à respecter. Pour nous stimuler et nous encourager dans cette épreuve, il me revient l'histoire de Paul et Silas relatant un confinement que ces deux apôtres ont vécu. Dans Actes 16, je résume les faits. Enfermés dans le cachot le plus reculé de la prison, les pieds attachés dans des blocs de bois parce qu'ils propageaient la parole de Dieu, cela ne les a pas empêchés de chanter haut et fort afin d'être entendus dans toute la prison. Des cantiques qu'ils interprétaient, soutenus par la confiance qu'ils portaient en Jésus, leur sauveur bien-aimé. À telle enseigne qu'ils furent délivrés par un tremblement de terre, les portes s'ouvrirent et les entraves aux pieds se détachèrent par miracle et le geôlier, prêt à se suicider, fut sauvé de justesse par l'apôtre Paul, à la suite de quoi le geôlier se convertit à Jésus et soigna les prisonniers. Voilà une histoire qui nous prouve bien que Dieu ne nous épargne pas les épreuves de la vie. Néanmoins, Jésus est capable de nous libérer de toute entrave, qu'elle soit physique ou psychologique. Paul et Silas montrent que la prière est efficace. Et Jésus peut nous délivrer de notre prison, qu'est la solitude, la peur, la crainte de mourir. Il nous rassure de l'avenir incertain et de nos angoisses. Bref, spirituellement, Jésus nous délivre de tout ce qui nous empêche de vivre d'une manière apaisante et libre. C'est vrai que nous avons besoin de l'amitié les uns des autres, surtout de se rencontrer, de partager la joie d'être ensemble. Nous avons besoin de l'affection de nos enfants, de nos parents et de l'amitié de nos amis. Mais aussi nous avons besoin de marques physiques, de tendresse, d'amitié, d'amour, de contact tactile, de poignées de main, d'accolades, de bisous et non de solitude. Bref, nous sommes en manque de tout ce qui nous donne du bonheur et nous rapproche les uns des autres. Nous sommes devenus infréquentables pour tous, sauf pour Dieu. C'est peut-être l'action de mettre l'accent sur ce qui nous manque pour mieux en percevoir les valeurs, comme par exemple l'amour, l'amitié, le partage, réapprendre à regarder la nature, réapprendre à vivre en famille, réapprendre à écouter nos enfants. Bref, tout ce que nous avons peut-être manqué va prendre, j'espère, dans l'avenir une nouvelle dimension. Comme Paul et Silas, nous pouvons déjà prier les uns pour les autres, mais aussi nous encourager mutuellement en fortifiant nos amis, nos familles, ceux qui sont âgés et faibles, de montrer en toutes circonstances que nous les aimons et que nous plaçons notre confiance en l'Éternel par Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Nous devons donner du goût à cette société qui est devenue, vous en conviendrez, bien insipide. Je lis dans Job, chapitre 6, verset 6, « Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'œuf ?» Et Matthieu de répondre dans le chapitre 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Vous comme moi, nous ne voulons être foulés aux pieds des hommes, bien sûr. Donc, notre devoir, c'est de surmonter cette épreuve avec sérénité et confiance en Jésus, le Fils de Dieu. Nous avons une chance inouïe d'avoir la paix, mais pas la paix façonnée par l'homme. Car je lis dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ici, Jésus ne dit pas que votre cœur ne panique pas, mais il dit ne se trouble pas. Il y a une grande différence entre la panique extrême et le trouble traduisé qui n'est pas limpide. Et Jésus de préciser de ne pas s'alarmer, ce qui signifierait de ne pas s'inquiéter d'une situation imprévue. Le côté grave de toutes les situations, Jésus les prend sur lui. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas suivre les instructions imposées par les autorités. Loin de là, Jésus nous demande d'être en paix avec notre cœur, prendre de l'altitude face à l'événement. Si notre cœur est en paix avec le Seigneur, nous pourrons communiquer à notre tour sa paix, l'espoir, les encouragements et développer de l'empathie pour notre prochain. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. C'est l'espoir prochain d'un déconfinement, peu importe le temps que cela prendra, la patience est aussi le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, je lis, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Voilà les fruits de l'esprit que nous devons porter, propager et disperser sans compter autour de nous, afin d'être des moteurs d'espoir et prouver que la parole de Dieu a toute sa place dans nos vies. Avant de céder la parole à notre frère Jean-Luc pour le message de ce matin, nous écouterons un chant intitulé « Je m'approche de toi », interprété par Jacqueline.
La semaine dernière, nous avons eu le choix de deux chemins sortant de la ville de Jérusalem, celui qui conduit à Emmaüs avec les deux disciples que Jésus accompagne, et la route qui descend vers Jéricho dans le récit de la parabole dite du bon Samaritain. J'aimerais, pour le partage de ce matin, vous emmener sur un troisième chemin qui sort de Jérusalem. Notre lecture dans Actes chapitre 9, les 12 premiers versets, je lirai dans la version Nouvelle Français Courant. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville quand, tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix lui répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Saul s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir, et il resta sans rien manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Rends-toi tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saul. Il prie en ce moment. » Et dans une vision, il a vu un nommé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Jusque-là, la lecture. Prions. Père éternel, encore une fois ce matin, nous voulons nous nourrir de ta parole, nous nourrir de ton message. Nous voulons entendre ta voix. Seigneur, que je sois vraiment qu'un simple haut-parleur pour mes frères et sœurs et les amis qui nous écoutent. Seigneur, mets vraiment toute ta puissance, toute ta gloire, pour que revienne vraiment à toi tout ce qui t'est dû. Dans le nom de Jésus. Amen. Comme je le disais en introduction, la semaine dernière, nous avons considéré 2 chemins qui partaient de Jérusalem. Un, vers l'est, celui qui descend vers Jéricho, la ville des plaisirs, et l'autre vers l'ouest, celui qui passe par Emmaüs et ouvre les portes vers l'expansion de l'Évangile. Et sur ces routes bien différentes et même opposées, nous y avons fait quelques rencontres. Et ma question était, quel chemin allons-nous prendre après le confinement dû à la pandémie? Aujourd'hui, toujours confiné, je vous emmène sur la route qui part de Jérusalem et monte vers le nord, vers Damas. Pour situer notre lecture dans l'histoire, je vous propose un petit résumé. Jésus est mort, et comme annoncé par lui-même et les prophètes avant lui, il est ressuscité 3 jours après. Le jour de l'Ascension, il est monté au ciel, et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Nous aurons, dans les dimanches qui vont suivre, la joie de partager avec vous ces événements. Suite à cela, l'Église de Jérusalem est née, mais cela ne plaît pas à tout le monde. Souvenons-nous qu'Étienne fut lapidé et qu'une persécution contre les disciples de Jésus fut lancée. Tous, sauf les apôtres, se dispersèrent. Et je vous lis un petit passage dans Acte 8, les 4 premiers versets, toujours dans la version français courant. Et Saul éprouvait le meurtre d'Étienne. Le même jour commença une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de la Judée et de la Samarie. Des hommes qui honoraient Dieu enterrèrent Étienne et pleurèrent abondamment sur sa mort. Saul, lui, s'efforçait de détruire l'église. Il allait de maison en maison, en arrachait les croyants, hommes et femmes, et il les jetait en prison. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. C'est ici, dans cette scène atroce du meurtre d'Étienne, que nous faisons connaissance avec le jeune Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Notre lecture de ce jour commence comme ceci. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer les disciples du Seigneur. Dans d'autres versions, comme la Seconde 1910 et Darby, nous lisons Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples. J'ai relevé ce mot « respirant ». Respirer, c'est vivre. Arrêter de respirer, c'est mourir. Et dans le cas de Saul, respirer le meurtre, respirer la mort, c'est toute sa vie. Quel étrange paradoxe. On dirait le titre d'un film, « Vivre et laisser mourir » ou « Respirer et tuer ». Mais peut-être êtes-vous choqué que d'entrée de jeu je parle de mort, comme si ce qui nous entoure n'était pas suffisant. Il y a quelques mois, nous aurions été moins secoués de parler comme cela. Pourtant, alors que je préparais une rencontre avec Portes Ouvertes, l'association de défense des chrétiens persécutés, je fus étonné de la carte du monde. La tristesse de voir que plus de la moitié des territoires de la planète étaient en orange et en rouge. La persécution existe encore au XXIe siècle. Il y a encore des saules qui respirent la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Oh, combien j'aimerais que le chemin de Damas leur soit connu aussi. Saul, rempli de haine, ne va pas s'arrêter là. Il va trouver le grand prêtre, le chef religieux le plus haut gradé de l'époque, et lui demande des lettres de recommandation, pour qu'il puisse user de son esprit de meurtre en toute liberté. Nous pourrions crier au scandale que des religions puissent soutenir des assassinats et des guerres. Je ne donnerai pas d'exemple, mais combien de persécutions, d'inquisitions, d'interdictions, d'emprisonnements, de meurtres ont été commis sur les disciples de Jésus en toute légalité. Saul, meurtrier par excellence, la main couverte de sang de nombreux chrétiens, dont Étienne, homme plein de grâce et de puissance, bon et rempli du Saint-Esprit, faisant le bien partout où il passait. Saul est un grand meurtrier. Étienne connaissait la Torah et les prophètes, et c'est à la suite d'un discours résumant parfaitement l'œuvre de Dieu envers son peuple qu'il sera lapidé. Saul connaissait aussi les mêmes textes. Il avait été enseigné par Gamaliel, un pharisien de grand renom. Pourtant, il tue l'un des siens parce qu'il ne pense pas comme lui. Étienne avait découvert ce qui manquait à Saul, mais rien n'y a fait. Il se met en chemin, bien décidé à respirer la mort pour vivre. Mais c'est sans compter sur le maître, sur le berger qui garde ses brebis. Jésus en personne l'arrêtera. Je suis Jésus que tu persécutes. Combien ce récit a été mis en doute, je ne développerai pas, mais j'irai directement au résultat. 3 jours après, Saul, le persécuteur, devient Paul, l'apôtre. Il s'est passé quelque chose. Il n'y a que Dieu qui puisse réaliser un tel miracle. D'autres exemples. 3 jours. 3 jours d'attente pour les disciples de Jésus qui pleuraient sa mort. 3 jours. Jonas passera 3 jours dans le ventre du poisson. 3 jours pour permettre une prise de conscience que quelque chose doit changer. Jonas acceptera la volonté de Dieu de parler à Ninive. Les disciples ne seront plus les mêmes après la résurrection de Jésus. Saul ne sera plus le persécuteur. Dieu est le Tout-Puissant, capable de changer ceux qui râlent, ceux qui doutent, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient que ce qu'ils voient, ceux qui ont peur, ceux qui tuent par orgueil, ceux qui... La liste est sans fin. En un mot qui peut tout reprendre, quiconque. Dieu est capable de changer quiconque, quiconque croit en lui. Moi le premier. Je me suis posé la question pourquoi Jésus, qui a arrêté Saul, ne l'a pas changé directement, comme avec une baguette magique. Je crois que pour Dieu, c'est tout à fait possible. Mais j'ai remarqué aussi que ce n'est pas son principe. Il appelle Abraham, mais il met du temps à changer son nom en Abraham. Que dire de Jacob qui deviendra Israël, et de Moïse qui devra patienter 40 ans avant d'accomplir la mission de Dieu? Que dire de Pierre qui devra passer par le reniement? Saul, qui devra passer aussi par le chemin de Damas. Damas, 3e chemin sortant de Jérusalem, la ville dite sainte. S'éloigner de la sainteté de Dieu, c'est s'exposer, être secoué par Dieu lui-même, et pas toujours d'une manière très douce. Saul sera frappé de cécité. Je vous relis le verset 8. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. Rien. Quatre lettres en français qui veulent dire tout. Rien. Pourtant, nous dit le texte, Saul avait les yeux ouverts, mais il ne voyait plus rien. Cela me fait penser à nos deux disciples sur le chemin d'Emmaüs que nous avons croisé la semaine dernière. Et pour rappel, dans Luc 24, verset 13, ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Quelque chose empêchait de reconnaître Jésus. Saul a les yeux ouverts, mais quelque chose l'empêche de voir. Il faudra du temps. Un peu comme l'aveugle que Jésus guérit en 2 fois dans le récit de Marc, chapitre 8, versets 22-26. Jésus ne réussit pas du premier coup, apparemment. J'ai même vu plusieurs commentaires qui mettaient le titre « Un miracle raté ». Dieu est le maître de la situation. Pour Saul, Dieu veut lui montrer qu'il est à côté de la question et il doit s'en rendre compte par lui-même. Il attend d'être reconnu. Tout comme les disciples d'Emmaüs doivent reconnaître le Christ ressuscité. Mais dans son épreuve, Saul ne voit rien. Que voyons-nous dans notre pandémie? Rien. Que regardons-nous dans notre confinement? Rien. Que voyons-nous dans cette épreuve mondiale? La fin du monde? La réalisation de l'Apocalypse? Le jugement de Dieu? La nature qui respire? L'homme qui s'étouffe? Ou rien? Rien parce que j'ai peur. Ou parce que je n'ai pas peur. Ou parce que ça ne me tracasse pas. Ou que cette pandémie, bah, je n'en ai rien à faire. Ou rien. Parce que je suis comme ça. Si Saul avait pensé la même chose, sans se remettre en question, que serait-il passé? Même sans voir, il avait le pouvoir de commander à ses hommes de continuer le travail. Ananias aurait été passé par l'épée, l'église de Damas décimée, et bien d'autres encore. Mais Dieu a frappé fort. Saul a été touché dans son orgueil. Dieu le fait tomber de son cheval, de son piédestal. Il le fait chuter et l'aveugle d'une grande lumière. En un éclair, il brise tout. Sa vie, sa mission, sa force, sa vision. En une pandémie, la vie du monde est brisé, tout s'arrête, l'économie s'éclate, l'orgueil de la mondialisation tombe de cheval, on ne voit plus rien. Comment Saul ne pouvait-il rien voir alors qu'il y avait cette lumière? Tant que la lumière éclaire les autres, nous en voyons les défauts et les critiques fusent, mais quand l'éclairage est sur nous, nous n'y voyons plus rien. Je me souviens que dans les jeux de nuit des camps, quand quelqu'un vous mettait la lampe de poche dans les yeux, je n'y voyais plus rien. C'est ce qui se passe avec Saul. La lumière de Christ est sur lui. Il ne voit plus rien. Pourtant, il y a une chose étonnante. Regardons sa question. Qui es-tu, Seigneur? Il ne voit rien, mais il l'appelle Seigneur. Il appelle Seigneur celui qui l'interpelle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Dans cette question, Saul reconnaît dans un premier temps que celui qui lui parle est plus que lui, est plus grand que lui. Il reconnaît une autorité, mais il ne le connaît pas. Et nous, comment connaissons-nous Jésus? Je le connais juste comme ça. Je le connais parce que j'en ai entendu parler. Je le connais parce qu'il m'a parlé. Je le connais parce que c'est mon ami. Ou je ne vois toujours rien. » Les 3 jours que Saul va passer dans le noir vont lui ouvrir les yeux, si je peux me permettre l'expression. Ses yeux de chair verront de nouveau, peut-être avec des séquelles, mais ce sont surtout les yeux de son cœur qui vont s'ouvrir. Il ne sera plus le même. Mais sans jeu de mots, jetons juste un œil pour voir comment ça s'est passé. Verset 9 du livre des Actes, chapitre 9, notre texte. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir, et il resta sans manger ni boire. Premièrement, il fut incapable de voir. Ça, nous le savions déjà. Mais que faire quand nous sommes arrêtés, en pleine course, et que devant nous, il n'y a plus que les ténèbres? Il n'y a plus rien. Le noir est, par définition, l'absence de lumière. Soit je déprime et c'est la chute vers la fin, soit je me pose des questions. Pourquoi? Comment? Pourquoi moi? L'aveuglement de Saul va servir à lui retourner les yeux vers l'intérieur, vers son moi, son ego. Saul n'a pas le choix que de se remettre en question. Il n'a plus devant lui de pauvres petits disciples sans défense. Il est face à Jésus, le ressuscité qu'il persécute. Quand avons-nous fait cette rencontre personnelle avec Jésus? Quand était la dernière fois où je me suis remis en question? Deuxièmement, Saul resta sans manger ni boire. Que faire quand tout s'arrête brusquement? Courir au magasin pour faire des réserves parce que c'est la guerre? Téléphoner au pasteur pour savoir ce que je dois faire? Il est clair que la pandémie a coupé l'appétit à plus d'un. Mais dans le cas de Saul, ne peut-on pas penser qu'au-delà de la surprise, il y a le désir de comprendre, de savoir pourquoi? Il est pharisien, rappelons-le, bercé dans la Torah, les prophètes et les écrits. L'ordre de jeûner n'est pas repris dans la loi de Moïse et le mot n'est même pas présent dans le Pentateuque. Mais la première mention d'un jeûne se rapporte au roi David, refusant de manger lorsqu'il suppliait Dieu de sauver la vie de son fils, conçu lors de son crime avec Urie et son épouse. David fut arrêté brusquement dans sa course au péché par le prophète Nathan. Saul devra jeûner volontairement ou pas. C'est sans doute un clin d'œil de notre Père pour nous rappeler que cette pratique de l'abstinence liée à la prière est quelque chose de vital. Justement, que nous dit la suite du texte, versets 10 à 12. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Rends-toi tout de suite dans la rue droite et dans la maison du Judas. » Demande un homme de Tarse appelé Saul. Il prie en ce moment. Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il recouvre la vue. Troisièmement, Saul prie, tout comme il le fera plus tard avec Silas dans la prison. Récit rappelé en intro par notre frère Henri. Saul, dans sa cécité, dans son jeûne involontaire ou pas, dans sa détresse, dans son confinement, prie. Il est en dialogue avec Dieu, ça c'est certain, puisqu'il reçoit la vision de sa guérison. Saul prie. Résumé de ces 3 actions, Saul se remet en question dans le jeûne et la prière. Pour nous, nous avons été arrêtés dans notre course. Notre route a été brusquement barrée. C'est pas la mort. C'est juste un arrêt, qui, je pense, n'est que provisoire, mais qui va certainement durer. 3 jours. 3 mois. 3 ans. Oh, Jean-Luc, tu exagères. La pandémie va prendre fin. Le confinement va être levé. Je ne vous parle pas de ce qui nous a stoppés, mais de notre propre petit arrêt. Même si tout revenait comme avant, comment vais-je reprendre ma vie? Comment vais-je continuer ma vie terrestre, mais surtout spirituelle? Est-ce que cette pause forcée aura changé quelque chose quant à la vision que j'ai de Jésus, de ses disciples, de son Église. Combien de temps vais-je mettre à redémarrer? Peut-être le même que pour retrouver mon premier amour, celui que j'avais à ma conversion, où j'étais tout feu, tout flamme. Retrouvons-nous avec notre Sauveur et Seigneur en tête à tête, dans l'intimité du confinement de notre chambre, porte fermée, dans la finesse du jeûne et de la prière. Retrouvons-nous juste au pied de notre Maître, car c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Pour terminer, j'aimerais nous laisser trois versets de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 17. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous ou des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors que le monde entier ne pense qu'à relancer l'économie, Paul, anciennement Saul, nous dit « Rachetez le temps ». Que nous puissions, dans ces jours mauvais, racheter ce temps qui nous est donné, de nous remettre en question, de jeûner et de prier. Amen.
Merci à Jean-Luc pour ce message. Le rappel de la puissance de Dieu est plus que nécessaire. Nous avons trop tendance à ne compter que sur nos propres forces, alors que Christ nous tend les bras. Il est évident qu'aujourd'hui, pour beaucoup, parler de Jésus n'est sûrement pas une priorité, encore moins de lire sa parole, alors que la solution est en lui. Je lis dans 2 Timothée 3, versets 12 à 17. D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute bonne action. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle puisse s'affirmer au monde par notre attitude, qu'elle soit comme la prière, le carburant de notre vie. Comme l'apôtre Paul, nous retrouvions la vue totale ou partielle qui nous manque et devenions des fidèles serviteurs. Que ton Église universelle grandisse et que ton amour pour chacun de nous soit reconnu de tous. Amen. Avant de recevoir la bénédiction du Seigneur, je vous laisse cet encouragement du psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Recevons maintenant la bénédiction de notre Seigneur. Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous fortifie et nous donne la paix. Qu'il soit avec nos familles, qu'il bénisse notre semaine et qu'il fasse de nous tous une source de bénédiction. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. À lui seul soit le règne et la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous avons le privilège d'être en synergie avec Herstal et Sherat. À cet égard, j'en profite pour les saluer bien fraternellement. N'hésitez pas à visiter leur site web sur epup.herstal.be. Merci de votre présence et on se donne rendez-vous, Dieu voulant, dimanche prochain à 10h. Que Dieu vous bénisse.